Bien écoutez, bonsoir à tous, nous allons commencer. Tout d'abord, au préalable, je vous indique que monsieur le DGS étant absent pour raison de santé, il va néanmoins nous suivre par WhatsApp. Alors, ce qui implique notamment de notre part, de ceux qui prendront la parole, de parler bien fort, quoi, parce qu'il n'est pas certain que la liaison... Ouais, ça, c'est lui, par exemple. Donc, parlez bien distinctement et relativement fort pour que M. Bali puisse bien vous entendre, vous comprendre et qu'il puisse, le cas échéant, vous répondre. Alors, tout d'abord, nous allons désigner un secrétaire de séance et je propose M. Raymond Carazi. Qui est contre, qui s'abstient. Je vous fais état des procurations que j'ai reçues. Alors, Christine Winkelmann a donné procuration à Sylvette Gilles. Jean-Paul Lenner m'a donné procuration. Richard Mancorsini a donné procuration à Jean-François Normani. Chantal Bergel a donné procuration à Jean-Michel Marlot. D'autre part, nous avons deux adjoints qui sont en train de s'occuper du cas d'une personne âgée qui est dans une situation extrêmement difficile puisqu'elle est privée d'électricité et donc de chauffage à l'heure où je vous parle. Nous essayons de trouver une solution. Je vous fais état aussi des remerciements que nous avons reçus. Donc, la famille de Jeannot Remusant a été très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection qui leur ont été témoignées lors du décès de Jeannot. Donc, même chose, Robert Germain, Céline Gerbin, vous remercie pour notre présence lors des obsèques d'Élise Germain. Et idem pour la famille de Thérèse Chabert, notre centenaire, qui s'est éteinte. Donc sa famille nous remercie pour les marques de sympathie et d'affection que nous avons témoignées lors du décès de leur maman. Thérèse Chabert, notre centenaire. Voilà, vous avez reçu le procès-verbal de la dernière séance. Est-ce qu'il y a des remarques ? Alors, s'il n'y a pas de remarques, nous le mettons aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Et nous passons au premier point de l'ordre du jour. Autorisation confiée au maire pour engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2021. Rapporteur Liliane Diaz.
Monsieur le maire expose que l'article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi numéro 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 37, dispose que, dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget primitif ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement. Les crédits correspondants visés aux alinéas ci-dessus sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. Il est proposé au Conseil municipal de permettre à M. le maire d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement d'un montant de 300 000 euros avant le vote du budget primitif 2022. Ces dépenses n'excèdent pas 25% des crédits ouverts sur les dépenses réelles d'investissement de l'exercice 2021, qui étaient de 1 352 665,49 euros, hors le chapitre 16 afférent au remboursement de la dette, soit un montant maximum de 338 166 euros. Le conseil municipal est donc amené à approuver l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d'investissement avant le vote du budget, qui devra intervenir au plus tard le 15 avril 2022. Vu l'avis de la commission des finances réunie le 13 décembre 2021. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement à hauteur de 300 000 euros jusqu'à l'adoption du budget primitif 2022. Il est précisé que ce montant n'excède pas 25% des crédits ouverts sur les dépenses réelles d'investissement de l'exercice 2021, qui était de 1 352 665,49 euros, hors chapitre 16, afférent au remboursement de la dette, soit un montant maximum de 338 166 euros. Les ouvertures de crédits seront réparties sur les imputations suivantes. Je ne vous les lis pas, ou bien vous souhaitez que je vous les énumère. Vous les avez sous les yeux. Hein. Alors, ce sont bien entendu des prévisions de sécurité. Hein. Ce ne sont pas des chiffres définitifs. C'est pour pouvoir être tranquille dans les mois à venir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?
Monsieur Savin.
Madame Diaz, vous nous proposez de permettre à Monsieur le maire d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement pour 300 000 euros. En l'absence de projet, ce sont donc des lignes de sécurité, comme vous l'avez bien annoncé.
C'est ça.
Mais donnez-nous donc des raisons pour accorder à Monsieur le maire un blanc-seing de 300 000 euros.
Ça permet, si jamais, je ne sais pas, on a un problème sur un bâtiment, sur une école ou quoi que ce soit, c'est ce qu'on avait expliqué en commission des finances, de pouvoir agir rapidement. Voilà. Et on les a répartis par ratio, je vous dirais, hein, sur les différents postes. Est-ce que Monsieur DGS a quelque chose à ajouter ? Non. On n'en aura peut-être pas l'utilité, mais si on en a besoin, ce sera plus rapide.
Et ça ne sera pas au conseil nécessaire.
Ah, monsieur Normani.
Oui, je vais rejoindre mon collègue. Que vous disiez, madame Diaz, une mesure de sécurité, j'entends. Mais peut-être que vous pourriez avoir une fourchette un petit peu plus précise, entre 0 et 300 000 euros. Moi, je m'interroge sur autre réseau, 44 000 euros. Oui, c'est une question. J'ai demandé à mon collègue qui était à la commission des finances de me poser cette question et il n'a pas eu de réponse. C'est un peu dommageable. C'est tout.
Voilà.
Oui.
Non,
je t'en prie.
Alors, monsieur Belli va peut-être nous apporter une précision sur le 44 000 euros, autre réseau.
Ça passe le micro.
Là.
C'est bon, Yann.
Oui, comme l'a dit la première adjointe déléguée aux finances, autant l'année dernière nous avions prévu dans cette délibération, qui est une délibération habituelle, nous avions prévu des choses sur des opérations précises. Là, il ne s'agit uniquement que de lignes de sécurité qui seront sans doute pas utilisées, mais qui nous permettent de faire face à des urgences ou à des nécessités absolues avant le vote du budget qui a lieu plus tard le 15 avril. Donc ce ne sont pas des, comme nous l'avons dit en commission des finances, ce ne sont pas des projets précis, ce sont des lignes de sécurité. Voilà.
Vous n'avez pas l'air très convaincu. Ah, élevé. Oui. C'est-à-dire que les réseaux, c'est souvent très très cher quand on intervient sur les réseaux. Bon. Enfin, après. Bon. Je pense que nous pouvons passer au vote. Qui est contre? Donc, vote contre 4 du groupe d'opposition Ensemble pour Camaret. Qui s'abstient? Adopté à la majorité. Je vous en remercie. Et nous passons au dossier numéro 2. Convention territoriale globale 2021-2025. Rapporteur Sylvette Gilles.
La ville de Camaret-sur-Aigle et la Caisse d'allocation familiale de Vaucluse, la CAF, sont partenaires depuis 2008 dans le cadre du contrat enfance-jeunesse, le CEJ. Ce CEJ a permis d'accompagner le développement de l'offre d'accueil sur notre territoire et les actions favorisant l'épanouissement des enfants. Dans sa nouvelle convention d'objectifs et de gestion, le COG 2018-2022, signé avec l'État, la Caisse nationale d'allocation familiale, la CNAF, a souhaité rendre plus lisibles les financements qu'elle apporte à ses partenaires et les accompagner dans une logique plus globale. C'est dans ce contexte que le contrat enfance jeunesse, le CEJ, est progressivement remplacé par une nouvelle forme de partenariat, la convention territoriale globale, la CTG. Pour la commune de Camaret-sur-Aigle, cette CTG vient se substituer au CEJ, arrivé à terme en 2020. Au-delà des politiques enfance-jeunesse, ce sont toutes les politiques sociales et familiales conduites par la CAF, petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, animation de la vie sociale, logement, amélioration du cadre de vie, accès aux droits, accessibilité aux services, qui sont concernés par cette nouvelle convention. Cette convention de partenariat co-construite entre la CAF, la communauté de communes Aigouvaise en Provence, et les communes du territoire devient le nouveau cadre de toutes les interventions de la CAF sur notre territoire et vise à renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des actions afin d'apporter des réponses pertinentes aux besoins des familles. Les objectifs de cette convention territoriale globale qui ont été définis suite à l'analyse des besoins sociaux réalisés sur le territoire de la CCAOP et une large concertation des partenaires signataires sont les suivants. Permettre à l'ensemble des habitants d'accéder à un service de proximité et de bénéficier d'un accompagnement administratif sur de nombreuses thématiques de la vie quotidienne avec la création d'un espace France Service itinérant sur les 8 communes du territoire, c'est un service géré par la CCAOP. Harmoniser le développement de l'offre d'accueil petite enfance par une réflexion commune sur la création de micro-crèches ou de MAM. Maintenir l'offre de services en direction de la jeunesse, développer la mise en réseau des clubs jeunes, de mettre en place une réflexion sur l'accompagnement spécifique des jeunes de 14 ans et plus. Développer une offre de services concernant le soutien à la parentalité sur l'ensemble des communes, réflexion autour d'un LAEP itinérant. Développer l'accueil spécifique des enfants porteurs de handicap sur l'ensemble du territoire pour répondre à la demande du plus grand nombre de familles. Pour mener à bien cette démarche, il a été convenu de nommer une personne référente qui pilotera et animera les différentes instances de gouvernance. Cette fonction de chargé de coopération territoriale, CTG, est encadrée par un référentiel d'évolution des missions de coordination initialement inscrite au CEJ et cofinancée par la CAF. Cette redéfinition des relations contractuelles entre la CAF et la ville de Camaret-sur-Aigle et l'évolution des modalités de financement permettront de formaliser un engagement politique fondé sur un diagnostic partagé entre la CAF et nos élus, de construire un projet social de territoire dans un contexte de stabilité des financements et de maîtrise des dépenses, avoir une vision globale décloisonnée de l'offre de services aux familles et à la population, adapter l'action aux besoins du territoire en renforçant son efficacité et sa cohérence, valoriser les actions, les faire mieux connaître. La durée d'application de la CTG est fixée pour une période de 5 ans, de 2021 à 2025. L'enveloppe budgétaire globale attribuée dans le cadre du CEJ est maintenue. Les bonus territoires constituent le dispositif financier afférent à la CTG et viennent en remplacement de la prestation de services enfance-jeunesse, la PSEJ. Ils font l'objet d'une convention d'objectifs et de financement pour chaque équipement soutenu par la collectivité et sont complémentaires des prestations de services socle, PSU-PSO. Vu les articles L263-1, L223-1 et L227-1 à 3 du Code de la Sécurité sociale, vu le Code de l'Action sociale et des familles, vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l'action sociale des CAF, vu la convention d'objectifs et de gestion arrêtée entre l'État et la CNAF, vu la stratégie de développement des CTG présentée et validée par le conseil d'administration de la CAF de Vaucluse en séance du 26 septembre 2019, il est demandé au conseil municipal d'approuver le principe de conventionnement CTG avec la CAF de Vaucluse couvrant l'ensemble du territoire intercommunal, d'autoriser monsieur le maire à signer la CTG entre la CAF et la collectivité, d'autoriser monsieur le maire à signer les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération et tout document afférent afin de bénéficier des nouvelles modalités de financement, le bonus territoire CTG. Avez-vous des questions ?
Bon, donc effectivement, le partenariat que nous avons avec la CAF se modifie. Il étend son rayon d'action et en plus, sur le plan géographique, il passe au niveau intercommunal, puisque chaque commune de la CCOP se prononce en conseil municipal sur ce partenariat. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. CCAOP, contrat de relance et de transition écologique, le CRTE, programme d'installation de panneaux photovoltaïques. Hop, j'arrive. Ben j'en ai sauté, hein, c'est ça ?
Oui.
Alors, je vais en arrière. Parc de logements locatifs communaux, mandat exclusif d'administration de biens, rapporteur René Sauvera, qui n'est pas là, puisque... Ah si, elle est là. Oui, elle souffle. Je lis, puis vous prendrez le relais si besoin. Au titre de la loi numéro 2014-1545 du 20 novembre 2014 et de son décret d'application du 14 décembre 2015, la commune de Camaret souhaite déléguer la gestion de son parc de logements locatifs à un cabinet spécialisé dans la gestion immobilière. Par le biais d'un mandat exclusif d'administration de biens, la commune s'adjoindra les services d'un professionnel pour assurer les tâches chronophages pour les services. Ce mandat garantira également l'application stricte des textes en matière de location immobilière, notamment en ce qui concerne les droits et devoirs respectifs du propriétaire et du locataire. Ce mandat sera confié à la SAS Caru Gauthier Rosier Labbé Croze, 6 à Bolène. Les missions qui seront confiées à ce cabinet sont décrites en détail dans le mandat 6 juin annexé et concernant notamment la recherche de locataires, les visites et état des lieux d'entrée et de sortie, la rédaction des baux, les demandes et vérifications de justificatifs, l'encaissement des loyers et charges à reverser à la commune via le trésor public, le suivi des révisions légales des loyers, les procédures et poursuites éventuelles en cas de non-paiement des sommes dues, le suivi et le conseil de la commune concernant les travaux à réaliser et leur imputation aux bailleurs ou aux locataires selon les textes en vigueur, l'accompagnement des visites annuelles. La rémunération du mandant sera de 7,2% TTC du loyer en vigueur du bien concerné pour les encaissements des loyers et charges, 80% TTC d'un loyer du bien loué pour la procédure de recherche de locataires, visite, état des lieux d'entrée, rédaction du bail, collecte et vérification des justificatifs. La convention de mandat est valable pour une durée de 2 années à compter du 1er janvier 2022. Vu l'article L1611-7-1 du Code général des collectivités territoriales, vu l'avis conforme du Trésor public en date du 6 décembre 2021, vu l'avis de la Commission des finances en date du 13 décembre 2021, il est proposé au Conseil municipal d'accepter la signature de la convention de mandat exclusif d'administration de biens pour chacun des biens désignés ci-après. Donc, nous avons un logement situé 3 rue du Moulin de la Galette, 6 logements à l'école des Amandiers, 212 avenue du Mont Ventoux, un logement de la gare situé 129 avenue Louis Pasteur, donc la gare aux enfants, 2 logements à la maison Bec, 3 rue Constant Latour, 2 logements au Ravelin, 83 cours du Midi, 1 logement de la Poste, 21 avenue Fernand Gonnet, et les 4 futurs logements situés place des Félibres. Il est donc demandé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de mandat exclusif d'administration de biens, modèle annexé 6 juin, pour chacun des biens désignés ci-dessus, avec la SAS Carrue Gauthier-Rosier-Labbé, Croze, 6 à Bolène, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier, d'imputer les dépenses et les recettes au budget de la commune. Y a-t-il des questions ? Monsieur Savin.
Madame Savera, je reviens à cette affaire. Le maire souhaite déléguer donc la gestion de son parc de logements locatifs, gare chronophage, par les services. Ils n'arrivent plus à le suivre ? C'est le CCAS qui, jusqu'à maintenant, faisait ça ou pas ?
Non. Le CCAS s'occupait de recevoir les personnes désireuses de postuler pour un logement social, de monter leurs dossiers et de garder les dossiers en attendant la libération d'un logement social. Donc il y a 2 types de logements sociaux. Il y a les logements qui appartiennent à la mairie, ce sont les logements dont nous venons de parler. Dans ce cas, on regarde les dossiers qui peuvent être éligibles au type de logement qui se libère. Une commission se réunit pour discuter avaliser les dossiers. Et à ce moment-là, on contacte les personnes qui se sont portées postulants. Et à partir de là, les personnes ont rendez-vous avec Madame Truc, les services comptables, pour monter, comme toute agence immobilière, pour préparer un bail, présenter une caution, ainsi de suite. Voilà. Donc c'est là que c'est peut-être chronophage pour les services comptables de la mairie. Pardon ? Pour le CCAS, parce que c'est énormément de temps pour parfois on appelle la personne et la personne a trouvé autre chose entre temps. Voilà. Donc sinon on en a discuté l'autre jour, c'est à part, il y a des logements qui sont détenus, qui appartiennent à Grand Delta Habitat. Et à ce moment-là, nous leur présentons le dossier, mais nous ne faisons que présenter les dossiers, nous ne sommes pas décideurs dans ce cas-là. Voilà.
Oui, bien sûr, mais quel est le montant des loyers annuels ?
Alors, le montant des loyers annuels, je ne pourrais pas vous dire. Vous voulez le montant des loyers de la mairie ou le montant des loyers de Grand Delta mairie ?
Juste ces 17 appartements.
Si vous permettez. Alors, j'ai la liste là des 17 appartements qui appartiennent à la mairie et qui sont loués à ce jour. Mais moi, je n'ai pas le montant. Ah oui, par an. Donc, par exemple, logement Moulin de la Galette, un T2 de 50 mètres carrés, 2648 euros par an. Logement des Amandiers, l'école des Amandiers, selon l'appartement, vous avez T4 de 75 mètres carrés, 5790 euros par an. T4 de 70 mètres carrés encore, 5676 euros par an. T4, 5600, ça tourne dans les 4, pas tout à fait 500 euros par mois, voilà. Hein ?
Ouais, c'est ça. Donc vous privez la commune donc d'un revenu substantiel.
Pourquoi ?
en faisant donner 7,2% de participation à l'huissier ou la société qui va faire le travail à la place du CCAS.
Si, monsieur.
Alors, en réalité, on va y gagner. Parce que donc, comme vous l'a expliqué notre adjointe aux affaires sociales, Mme Sanvera, c'est pas le métier, c'est pas le travail, ce n'est pas la mission du CCAS de faire le travail d'une agence immobilière qui aurait un mandat de gestion des locataires. Il s'agit non seulement de constituer un dossier social, de faire une enquête sociale sur le profil de chacun de ceux qui postulent à un logement municipal, mais aussi il faut ensuite assurer le suivi de chaque location, l'état des lieux, les travaux à faire, répartir ce qui relève du locataire ou ce qui relève du propriétaire. Donc ça demande aussi des compétences juridiques et techniques. Donc ça prend de plus en plus de temps. C'est à la fois spécifique mais aussi chronophage. Et comme vous le savez, nous sommes dans une politique d'acquisition, de réhabilitation de logements pour les mettre à la disposition d'une population à revenus plutôt modestes dans un but social. Et là, les prochains qui arrivent, ce sont les 4 logements situés place des Félibres. Donc voilà, c'est une politique que nous menons qui prend de l'ampleur. Il y a de plus en plus de logements à gérer. Et quant à, pour revenir sur le manque d'argent, l'argent que nous ne percevons pas parce que nous laisserions aux prestataires 7,2% du loyer, en fait on va s'y retrouver par rapport au nombre de logements qui actuellement ne sont pas justement occupés parce qu'ils ne sont pas suffisamment aux normes, parce qu'il y a des travaux à faire et ainsi de suite. Toutes ces tâches-là seront confiées justement aux prestataires, aux mandataires, pour notre compte. Et le but du jeu, on fera un bilan au bout de 2 ans, c'est pour ça aussi qu'on a pris une convention relativement courte de 2 ans, nous devrions nous y retrouver sur le plan financier parce que nous devrions avoir des logements en meilleur état et davantage occupés, ce qui est un petit peu inquiétant pour la commune. Je ne sais pas quel est le nombre de logements que nous avons sur les 17 là sur les 13 qui ne sont pas occupés, mais il y en a un certain nombre parce qu'il n'y a pas suffisamment de suivi de ces logements qui est fait, sans compter aussi au niveau financier que le prestataire va s'occuper de récupérer les loyers impayés, puisque c'est son métier, c'est son corps de métier. Ce que ne peut pas faire et n'a pas le temps de faire, par exemple, la responsable du CCAS. Voilà, c'est ce que je viens de dire, c'est récupérer les loyers.
Monsieur le maire.
Monsieur Normani.
Si vous me permettez.
Et je vous permets.
Je vous en remercie. Je crois voir, mais peut-être si je ne suis pas assez précis dans ma vision des choses, pour comprendre un non-sens dans ce que vous venez d'expliquer. Pourquoi la mairie achète-t-elle des logements, construit-elle des logements qu'elle n'est pas en mesure de gérer ? Elle ferait encore beaucoup plus d'économies si elle n'avait pas ses logements et qu'elle n'ait pas besoin de mandataire pour les gérer. Ça ferait beaucoup plus d'argent à la mairie. Et je ne comprends pas cette volonté d'acquérir des logements pour ensuite les transmettre à un bailleur. Je ne comprends pas.
Alors pourquoi nous voulons acquérir des logements ? D'abord, notamment pour plusieurs raisons. Mais d'abord dans le centre-village, parce que c'est souvent des logements de centre-village qui sont concernés, pour éviter qu'ils ne soient pas occupés. Justement, qu'ils soient laissés à l'abandon, comme cela arrive trop souvent dans nos communes rurales, où il n'y a pas de locataires, il n'y a pas d'habitants, parce que le propriétaire est défaillant, négligent, pas intéressé, n'a pas les moyens de faire des travaux. Donc, pour l'image d'un cœur de ville comme le nôtre, c'est vraiment dommageable. Donc, comme vous pouvez le constater, les logements que nous avons acquis depuis que nous sommes aux responsabilités, ce sont tous des logements de cœur de ville et des maisons de village qui permettent donc une occupation en général par une population relativement jeune, parce que ce sont des logements qui sont plus adaptés à des locataires de relations.